Le texte qui est un peu ce qui sous-tend tout notre enseignement de cet été sur les réveils. Dans Hébreux 11, verset 39, tous ceux qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Je ne voudrais pas lire plus, parce que parfois, en lisant de trop, on oublie l'essentiel de ce qu'on a entendu. Je voudrais ce matin insister sur cet aspect que chrétiens, enfin, en tant qu'occidentaux, hein, de manière générale, hein, même ceux qui viennent de l'Afrique, ils sont baignés dans cet esprit occidental. On aime toujours du résultat. Hein, on veut du résultat. Hein, on veut que ce soit efficace. Hein, on fait quelque chose, on veut du résultat. Hein, ça, c'est un peu l'esprit occidental qui transparaît dans l'ensemble de notre culture. Et on a tendance aussi à le transcrire sur le plan chrétien. Or là, Dieu nous prend à revers. Hein, vous voyez, il nous prend à revers. Il présente les personnes, qui sont quand même nombreuses, entre le verset 23, 32 et le verset 38. Il y a des choses un petit peu horribles qui sont présentées, de chrétiens qu'on n'envie pas trop, hein, dans le martyre qu'ils ont vécu. Et pourtant, ces deux versets nous présentent quelque chose de très positif, très optimiste. Ils disent ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis de leur vivant, mais Dieu avait quelque chose de meilleur. Et vous, ça, c'est, on entre là dans le domaine de la transmission. On n'est pas dans une course de 100 mètres, on est dans une course de relais. Et si on peut prendre cette image, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible quand elle nous est présentée, c'est qu'on est dans une vision globale telle que Dieu la voit, pas telle que nous la voyons. Nous, nous voyons notre individualité parce que nous voulons effectivement être prospères, nous voulons profiter de notre vivant, de toutes sortes de choses. C'est ce qui d'ailleurs amène à la convoitise, amène à la jalousie, amène à tous les troubles, hein, que nous connaissons dans notre société. Tout le monde doit avoir une belle voiture, tout le monde doit avoir une belle, voilà, tous les superlatifs. Mais en fait, Dieu ne voit pas les choses comme ça, parce qu'il est dans l'éternité et qu'il considère que nous avons une vie qui dépasse la vie présente. Et nous devons à chaque fois avoir la vision de Dieu sur nous. Si nous avons notre vision sur Dieu, eh bien, nous sommes mal parce que nous voyons Dieu comme nous le concevons. D'ailleurs, c'est comme ça que la Croix Bleue, ce qui est un organisme chrétien, pour sortir les gens de l'alcoolisme, ils présentent Dieu parce qu'ils se sont refroidis aussi dans leur foi. Comment vous concevez Dieu ? Vous voyez ? Ce qui fait que c'est très tolérant, puisque même des non-croyants chrétiens peuvent bénéficier de la Croix Bleue. C'est très sympa, c'est très gentil de vouloir que chacun conçoive Dieu comme il veut. Voyez, mais en fait, la réalité, c'est pas ça. C'est que Dieu, il est avant nous, et il est éternel, et il est incréé. Et donc, si nous, nous ne conformons pas à ce que lui voit de nous, nous sommes mal. Et très souvent, même en tant que chrétiens évangéliques, nous réfléchissons comme ça, nous pensons comme ça. Et ça, c'est dramatique, parce qu'en fait, on a des vies chrétiennes en haut et en bas comme ça. Pourquoi ? Parce que quand Dieu fait des miracles, hein, quand il agit, comme la Marie-France l'a dit, c'est super, on est en haut. Et puis quand on est dans l'épreuve et que Dieu ne répond pas, on est en bas. Parce que on a cette conception de Dieu telle que nous le voyons. Mais nous devons avoir la conception de ce que Dieu voit. Et là, il présente dans cet chapitre de la foi, Hébreux 11, quelque chose de paradoxal. Deux situations, une situation où, de leur vivant, eh bien, les croyants sont exaucés et de leur vivant ne sont pas du tout exaucés, au contraire, ils sont même écrasés. Et pourtant, ils participent à ce que Dieu voit, c'est-à-dire à quelque chose de meilleur pour qu'ils parviennent sans nous à la perfection. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la perfection, comme nous. Tous arrivent à la perfection. Et cette question de la perfection est au centre du réveil. Ce que je veux vous transmettre, si vous voulez, que vous ne comprenez peut-être pas parce que vous n'avez pas tous les éléments, c'est que tous ces réveils, hein, qui sont en partie ici, hein, sur cette frise de Luc Maroni, tous ces réveils, eh bien, montrent un élément qui est différent de la réforme, hein, puisque la réforme a commencé ici au XVIe siècle, par la justification, eh bien, c'est la sanctification et la perfection. Le perfectionnement du chrétien. Qu'est-ce que c'est ? Quand on le dit comme ça, effectivement, il y a beaucoup de critiques qui montent, qui sont d'ailleurs montées, contre cette question du perfectionnement du chrétien, à juste titre d'ailleurs. Parce que si on le prend au premier degré, c'est pas du tout le christianisme. Et pourtant, c'est la question du perfectionnement qui sépare beaucoup de chrétiens et à l'intérieur des mêmes églises, et à l'intérieur de cette église aussi. C'est pour ça que j'aimerais vous faire comprendre la doctrine de la perfection. C'est la doctrine de la perfection qui est la doctrine évangélique, alors que la doctrine du protestantisme, c'est la doctrine de la justification par la foi. Justifié par la foi, c'est le fondement, bien sûr, par rapport à ce que l'Église catholique des siècles avant le XVIe siècle avait amené en cherchant à expliquer qu'on est sauvé par les œuvres. Donc il y a cette réaction, ce mouvement de réaction qui a amené, avant Luther d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, de Jean Hus, qui est le siècle précédent, qui avait déjà réagi contre cette hérésie. Et c'est surtout venu grâce à la découverte des écrits, des écritures. Parce qu'à l'époque, au XVIe siècle, il n'y avait qu'une écriture, la Bible, qui était en latin. Parce que Jérôme, Saint Jérôme, c'est bien, il n'est pas là, il est dehors. Saint Jérôme, alors je ne sais plus, préservez-moi de l'erreur, je ne sais pas si c'est 4e ou 5e siècle, avait traduit la Bible en latin, puisqu'à l'époque, tout le monde parlait le latin. Le français vient du latin, entre autres. Et toute la Bible est écrite en latin. Et ceux qui voulaient être ministres du culte, entre autres chez les catholiques à l'époque, il fallait connaître le latin et parler en latin. J'ai appris d'ailleurs aujourd'hui que la langue universelle, c'est pas l'anglais, c'est le latin. Chez les universitaires, hein, quand les universitaires veulent se parler, ils se parlent en latin. Je ne pourrais pas, je ne connais pas le latin. Mais voilà, c'est la langue aujourd'hui encore qui est reconnue comme universelle. Donc à l'époque, c'était tout en latin. Et quand à la Renaissance, ils ont découvert le grec et l'hébreu, c'est ça qui a permis à Luther de lire dans le texte eh bien, ce qui était l'original des Écritures, puisque les Écritures sont écrites en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Et c'est cette découverte qui a été le déclenchement pour Luther de la découverte du salut par la foi, la justification par la foi. Nous sommes, et c'est ça qui est important que je voudrais vous faire comprendre, notre identité, c'est une église protestante évangélique d'Aubergenville, parce qu'on est à Aubergenville, à Melun, il s'appelle à Melun parce qu'ils sont à Melun, voilà, c'est tout simple, la localité où l'église se trouve. Mais protestant évangélique, c'est deux manières complémentaires de vivre la foi chrétienne. Le protestantisme, c'est le salut par la foi, et l'évangélisme, c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est les deux ensemble qui font un bouquet, le bouquet de la doctrine chrétienne. Voilà, si vous ne retenez que ça ce matin, retenez-le pour que vous puissiez aussi répondre à ceux qui vous disent qu'est-ce que c'est protestant, qu'est-ce que c'est évangélique. Je voudrais juste, avant de reprendre la suite des réveils, hein, puisque la dernière fois, je vous ai dit qu'en 1680, à peu près par là, Louis XIV, qui sous la pression des catholiques de l'époque, avait décrété qu'il n'y aurait qu'une seule religion dans son royaume, et que ce serait la religion catholique, a supprimé l'édit de tolérance qui avait été mis en place à la fin du XVIe siècle par Henri IV. Il a supprimé cet édit de tolérance pour garder qu'une seule foi dans son royaume. Un seul roi, une foi et une loi. Et du coup, en 1685, et bien tous les protestants de France ont dû fuir. Le premier, c'est les pasteurs, qui ont dû fuir parce qu'ils ont reçu une lettre du roi en disant que plus de pasteurs en France, donc ils sont partis. Et ensuite, après, les chrétiens étaient tout seuls à se débrouiller. Mais le Seigneur est venu à leur secours et ça donnait lieu, dont les Cévennes, entre autres, aux inspirés. C'est-à-dire Dieu les a inspirés et il a même inspiré des bébés dans leur berceau qui parlaient en français courant alors qu'ils ne connaissaient même pas le français, des enfants de 4 ans, des enfants de 8 ans qui connaissaient que le patois, qui n'avaient jamais été à l'école. Et pendant 2 heures, ils faisaient un prêche en citant des passages de l'écriture qu'ils ne connaissaient pas. Ils citaient les psaumes, ils citaient Isaïe, ils citaient Ézéchiel, etc. Voilà. Même vous, peut-être, il y a des versets qu'on ne connaissait pas. Ils les ont cités sous l'inspiration de l'Esprit. Et donc, ça a été le réveil cévenol, les inspirés, où Dieu a commencé à souffler. Et à partir de là, ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Les réveils continuent, où Dieu réveille son Église. Dieu réveille son peuple. Donc, le prochain réveil que je vais évoquer, c'est au 17e... non, ça c'est le 18e siècle, parce qu'il y a marqué 1700, hein, à chaque fois, le siècle, c'est un siècle plus tard. Donc, en 1723, on reprendra ce réveil-là, qui est le premier réveil mondial. Parce qu'il y a tout un tas de petits réveils, hein, ici, bien sûr, Dieu réveille régulièrement. Mais je vous parlerai du réveil ici, en 1730, hein, bah, ici, là, qui est le premier réveil mondial, qui a touché le monde entier. Et il y en a au moins 6 réveils après qui effectivement touchent le réveil. Dieu veut réveiller son peuple au niveau du monde entier. Et c'est pour ça un peu aujourd'hui, Dieu nous a conduits vers les Watchmen, les gatherings, les rassemblements mondiaux, parce qu'en fait, c'est un aboutissement un petit peu de cette épouse qui est à l'attente de l'époux, et c'est au niveau mondial. C'est pas juste à Bergenville que ça se passe, c'est pas juste au niveau de la France. Dieu a une seule épouse et qui est le peuple de Dieu. Je voudrais juste revenir ce matin, et en n'étant pas trop long, sur la réforme ici. Comme je vous le disais, la réforme, donc 1517, Luther, et 2017, c'est l'année prochaine, dans 6 mois, on va fêter les 500 ans de la réforme protestante, à savoir les 95 thèses que Luther a écrites pour dénoncer ce que l'Église à l'époque, qui ne voulait pas quitter, qui est l'Église catholique, l'Église universelle, était en décalage par rapport aux Écritures, puisqu'il a eu connaissance des Écritures, en particulier le grec pour le Nouveau Testament, et là, l'Épître aux Romains l'a vraiment frappé, c'est vraiment le mot, frappé spirituellement, au point que c'est vraiment l'Épître de Luther, l'Épître aux Romains. Je voudrais, pour bien que vous soyez armés, déjà pour comprendre comment Dieu agit, qu'il agit par touches successives. Il n'agit pas toujours d'un seul coup parce qu'il passe par le moyen humain et nous sommes limités en tant qu'humains. Et tout ne se passe pas une seule fois. La réforme ici, en fait, il n'y a pas une réforme, il y a 5 réformes. Voilà. D'ailleurs, Luc Maroni, qui est à l'origine de cette frise, les a bien marqués. Il y a une réforme luthérienne, il y a une réforme calviniste, une réforme radicale, une réforme médiane, et une réforme catholique qui n'est pas sur cette frise-là, parce qu'elle ne serait pas assez grande, parce que chez les catholiques, il y a eu beaucoup aussi de choses qui se sont passées, et en particulier la réforme. Il y a une réforme catholique aussi qui a lieu au XVIe siècle. La réforme luthérienne, c'est Luther, qui est un prêtre catholique, hein, moine catholique, qui a été frappé par les indulgences qu'il voyait à Rome quand il a vu construire le Vatican, et que tout cet argent venait des pauvres, des plus pauvres, qui n'avaient rien déjà, et qui devaient donner de l'argent en compensation hein, d'années gagnées dans le ciel, du paradis, etc. Enfin, il y a tout un système qui a été élaboré, spirituel, qui a été élaboré, qui n'est pas dans la Bible, pour faire accepter ce mensonge, si vous voulez. Et Luther a été vraiment frappé de cela. Et il a dit, c'est pas possible d'en arriver là. Et donc, il a repris, par rapport à l'Épître aux Romains, eh bien, les fondements de la foi chrétienne. Et en particulier, ça donnait les cinq soli, hein, sola scriptura, le seul l'Écriture, seule la foi, seule la grâce, seul Jésus-Christ, seul à Dieu la gloire. Ça a été la découverte de Luther. Mais Luther, il a tellement combattu le catholicisme, et très souvent, nous nous construisons en opposition à quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Mais parfois, on peut pas faire autrement. Quand on est dans une situation, et qu'on veut en sortir, hein, admettons que vous êtes dans une prison, la seule chose que vous pensez, c'est sortir de la prison. Hein, vous n'allez pas commencer à faire tout un scénario sur le fait que vous allez pêcher dans... Bien sûr, vous pouvez rêver, hein, mais vous ne pouvez pas l'élaborer. Ce que vous voulez, c'est sortir de la prison. Donc c'est normal, c'est humain, mais en même temps, ça déforme. Luther, il a mis en avant un élément, mais ce n'est pas le seul, de la foi chrétienne. Et cet élément, qu'il fallait bien sûr refonder, c'était la justification. On est justifié devant Dieu, non pas par nos œuvres, mais par la foi. Ça, c'est la doctrine du protestantisme luthérien. Mais il n'a pas tout réformé, et de loin. Par exemple, la scène luthérienne, quand vous allez dans une église luthérienne, mais aujourd'hui, parce que ça n'a pas changé, elle est très très proche de la messe. Elle est très très proche de l'Eucharistie, si vous voulez. La transsubstantiation chez les catholiques et chez les luthériens, c'est là... Aidez-moi, c'est pas la transsubstantiation, c'est la... Pardon ? Non, c'est pas la trans. C'est une subtilité où c'est moins trans que, je sais plus, j'ai plus mes notes là. Pardon ? Consubstantation, oui, je crois que c'est ça, consubstantation. Voilà. Parce que chez les catholiques, la messe, c'est que le vin et le pain est transformé par la transcendance en sang et corps de Christ. C'est-à-dire que vous prenez effectivement, réellement, ces substances qui sont transformées par le prêtre. Voilà. Chez les luthériens, c'est à cheval entre ça, et alors je ne vous explique pas les détails, parce que je n'ai pas appris par cœur, entre ça et la scène réformée, qui elle a réformé complètement, qui voit un symbole. Comme nous, on voit un symbole. On ne voit pas que le pain se transforme. Voyez. Bon. Mais chez les luthériens, c'est pas loin de la transformation des catholiques. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, il n'y a rien de parfait. Rien de parfait. Ça, c'est des doctrines, hein, ce n'est pas la Bible. Hein. Mais il a quand même mis sur vraiment une fondation nouvelle le fait qu'on est sauvé uniquement par la foi. La réforme réformée, hein, je préfère ça au mot calviniste, parce que je mets la réforme zurichoise dans la réforme réformée plutôt que dans la réforme luthérienne, parce que Zwingli à Zurich était aussi un prêtre catholique qui a fait la même découverte que Luther, mais lui n'a pas du tout accepté cette transsubstantiation, etc. Donc il est plutôt avec Calvin dans la notion de symbole, hein, et pas de... Bon, je cite juste ça, hein, mais il y a d'autres détails, bien sûr. Donc, il y a Zwingli, il y a Mathiazel Jean Calvin, John Knox, qui sont des réformés, qui ont réformé l'Église au travers de la justification par la foi toujours, mais en y apportant des enseignements qui sont plus proches de l'Écriture. Ensuite, après, il y a la réforme radicale. Réforme radicale, alors il y a Münster, il y a Simon, Grebel, etc., qui ont vécu, en particulier les Allemands, au même moment que Luther. Et il disait à Luther, tu ne vas pas assez loin. Tu ne vas pas assez loin. Vous voyez, la preuve qu'il est passé assez loin, puisque la scène, il ne l'a pas réformé complètement. Il a pris les éléments de la messe. Et eux, ils sont allés plus loin, au point de dire, il faut même réformer la société. Vous voyez, comme quoi, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent réformer la société. Ben, à l'époque, ils voulaient réformer la société. Et donc, du coup, il a produit des révoltes chez les paysans qui se sont soulevés. Et il y a eu des morts, il y a eu des choses assez horribles à ce moment-là. Et il a été tué par les services du gouvernement, etc. Donc, ça a été réprimé dans le sang, la révolte armée des paysans. Et en Suisse, il y a eu la même chose. Zwingli, qui à Zurich était modéré, mais quand même réformé, eh bien, ils ont dit pareil, ils l'ont attaqué en disant tu vas pas assez loin, il faut aller plus loin, il faut que cette réforme aille jusqu'au bout, etc. Et ils sont entrés aussi dans un radicalisme, dans une, en voulant aller beaucoup plus loin dans la réforme. Et la plupart de ces évangéliques, si vous voulez, enfin, avant le terme, avant la... C'est intéressant de voir leur esprit, parce qu'aujourd'hui, nous, évangéliques, on tombe dans les mêmes panneaux, parce qu'on est des humains. Et caractérise les réformes, la réforme radicale ici, c'est que leur vision de la fin, l'eschatologie, si vous voulez, l'eschatologie en grec, ça veut dire la fin, la vision de la fin est toujours la même. C'est-à-dire qu'ils voient Jésus qui revient tout de suite, là. Voilà, on est préoccupé par la venue de Jésus, donc on donne des dates, on donne des choses, etc. Ce radicalisme, hein, qui veut que la société complètement change, eh bien, ils tombent toujours dans ce pré-millénarisme qui amène des déviances assez grave. Et voilà, on ne voit plus que le retour de Jésus, alors qu'ils ne se sont pas engagés en fait réellement dans la société. Au contraire, ils demandent même de sortir de la société pour ne pas être en... Et on devient sectaire. Donc, ils préconisent la rupture avec la société. Donc, ça, c'est la réforme radicale, vous voyez, qui veut tout éradiquer. Ensuite, il y a la réforme anglicane. Vous savez que là, ce n'est pas du tout comme Luther qui a été touché par la Bible. C'est Henri VIII qui n'arrêtait pas d'avoir des femmes. Il aimait bien les femmes. Et il en changeait tout le temps, au point que le pape s'est mis un peu en colère en disant « Attends, la prochaine, moi, je ne te bénis pas. » Il a dit « Bon, si tu ne te bénis pas, c'est pas grave, je me fais pape. » Donc il s'est fait pape, à la place du pape. Il a dit « Je suis le chef de l'Église. » C'est ça, hein, réforme anglicane. Donc du coup, il s'est proclamé pape. La place du pape, comme il était sur une île, hein, c'était déjà le Brexit, il avait certaines chances de s'en sortir. C'était effectivement ce qui s'est passé. Donc il est devenu chef suprême de l'Église. Aujourd'hui, la reine est toujours chef suprême de l'Église anglicane. C'est resté. Et donc cette réforme-là, elle a toujours fait un va-et-vient entre le catholicisme et le protestantisme, tout le temps. Tout le temps parce qu'il n'y a pas eu un fondement vraiment solide. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les high church dans les églises anglicanes et les low church. High, quand vous allez dans une high church ou tout au moins dans la même cathédrale où le matin il y a la high church qui se réunit et le soir la low church, parce qu'ils ont cette capacité d'avoir les deux rites en même temps. La high church, c'est comme une messe, pratiquement. Il y a très peu de choses changées, la pompe, je suis un peu caricatural, hein, pour vous aider à comprendre ce que c'est que la réforme, les cinq réformes. Et du coup, la low church s'est développée sur des évangéliques profondément évangélique. Et dans la même église, il peut y avoir deux catégories de personnes qui viennent le matin, un peu ce qu'on appelle les églises de multitude. Tout le monde peut venir, du moment qu'ils connaissent la liturgie, ils savent qu'il y a tel chant. D'ailleurs, les chants sont affichés, le numéro 352, on chante, etc. Et donc cet anglicanisme, ce qui explique en partie aussi pourquoi au XVIIIe siècle, il y a eu tous ces réveils en Angleterre, qui ce sont des ministres anglicans, Wesley et autres, qui n'ont pas supporté, comme Luther n'a pas supporté dans l'Église catholique, ils n'ont pas supporté cette liturgie dans l'Église anglicane. Et du coup, c'est des anglicans qui sont devenus évangéliques. Et c'est là qu'on retrouve la notion d'évangélique. Ce sont, au travers des anglicans essentiellement, qui ont réformé la liturgie anglicane, entre autres, et qui a donné lieu à Wesley, Jonathan Edwards, etc. Et il faut citer là, ce qui n'est pas sur cette frise, la réforme catholique. Et si on veut connaître un peu le catholicisme, il faut savoir quand le concile de Trente a fait une réforme. Alors on l'appelait la contre-réforme, si vous voulez, parce que en fait, elle est venue plus tard. C'est en, je ne sais plus par cœur, les années du concile de Trente, mais c'est dans les 1560 par là. Ça a duré longtemps. Ils ont eu du mal à boucler leur concile. C'est 12 ans que ça a duré, avec des interruptions de guerre d'ailleurs entre deux. Voilà. Mais ils ont bouclé, et c'est là qu'ils ont écrit leur catéchisme. Il n'était pas écrit. Et ça a repris, par exemple, dans cette réforme catholique, c'est marqué qu'on a le salut par la foi. Voyez-vous, comme quoi la réforme protestante a eu bénéfice. Bien sûr, ils n'ont pas tout enlevé, les saints, etc. Mais la justification par la foi se trouve dans la réforme catholique. Comme quoi Dieu a, à ce moment-là, dans toutes ces réformes-là, fondé un premier fondement qui est la justification. Nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Nous n'avons rien, simplement par la foi. Je vais m'arrêter là pour simplement dire qu'on voit que si on en reste là, que si nous on en reste là, ben on devient des pharisiens. Et c'est ce que le luthérianisme a apporté, l'Église réformée a apporté, et que l'Église évangélique aujourd'hui apporte aussi quand on reste juste sur la justification de la foi. Par la foi, voyez, parce que c'est un peu intellectuel. On peut y adhérer par notre intellect. On peut croire que par la foi, mais qui peut être une pensée intellectuelle, je suis sauvé. Et je peux le dire, je peux le déclarer. N'importe qui peut venir au micro, qui est un croyant, je suis justifié par la foi. Voyez. Et tout le mouvement évangélique, les réveils que Dieu a suscités, c'est la transformation du cœur, pas uniquement de la raison, pas uniquement de la pensée. Pas uniquement de la foi intellectuelle, vous voyez, parce que la foi, est-ce que on sait que c'est le cœur, tu dis que Jésus t'a sauvé, mais est-ce que c'est ton cœur ou est-ce que c'est ta raison qui te le dit? Est-ce que c'est ta pensée qui te le dit, parce que les Écritures te le disent, ou est-ce que c'est ton cœur? Et c'est là toute la différence. Et c'est pour ça que Dieu a dû susciter des réveils, parce que les réveils, ils réveillent le cœur. Ils réveillent l'âme tout entière. Parce que dans la Bible, c'est marqué, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de... On le redit ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta, de toute ton, de toute ta force. Voyez-vous, aimer Dieu, c'est pas juste être justifié par la foi. Et c'est là que ces réveils, dont on va reparler à partir de dimanche, eh bien, vont nous amener à réformer nos cœurs. Réformer nos cœurs, ça veut dire écouter la parole et la mettre en pratique. Et ça, c'est le combat de tout chrétien, c'est le combat de toute église, c'est le combat de tout mouvement qui, au départ, c'est tout frais, tout beau, et petit à petit, eh bien, on s'éloigne parce qu'on ne pratique plus la parole. Par contre, on est très fort sur la doctrine. Et on est prêt à taper avec la Bible sur quelqu'un, s'il n'est pas d'accord avec moi sur la doctrine. Alors là, les chrétiens doctrinaires, les évangéliques, vous en trouvez tout plein. Okay, ça, c'est facile. Mais c'est pas ça. La religion pure et sans tache, a dit Jacques, c'est d'aller visiter les orphelins, les veuves, les enfants. Ça prouve que le cœur est touché. Et ça, c'est le résultat des réveils. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un réveil, ici, aujourd'hui, maintenant, pour nous. Amen. Et ça, ça passe par la prière, l'intercession, demander à Dieu d'agir. Parce que sans lui, nous restons avec notre tête, nous restons cérébrales, nous restons dans des théories, nous restons dans des dogmes, nous restons dans... Et ce qui est effectivement... Tous les revivalistes, eh bien, ils ont souffert de ça, de voir leur propre église, soit luthérienne, soit réformée, soit anglicane, eh bien tomber dans ces rituels, ces formalismes, ces moralismes. Il y a le moralisme et le laxisme, les deux vont ensemble, dans ces refroidissements spirituels. Alors prions que le Seigneur nous donne eh bien, d'être renouvelés, d'avoir envie d'un réveil spirituel. Seigneur, nous croyons que l'histoire ne nous apprend que si nous la laissons nous interpeller. Seigneur, cette histoire qui est devant nous et qui pour la plupart ne nous connaissons pas, Seigneur, nous montre, Seigneur, Seigneur, cet élément stable qui vient de l'être humain, qui est de s'ankyloser dans des rites et des dogmes et des convictions pour les asséner au lieu de les vivre. Alors Seigneur, nous te prions de nous faire grâce, que nous ne tombions pas dans ces travers. Et si nous nous sommes tombés, certainement que c'est le cas, bien Seigneur, que tu nous relèves et que tu nous envoies un réveil spirituel afin qu'il nous amène la vie. Et la vie, Seigneur, en abondance. Et que cette vie produise du fruit pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Nous te réclamons cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Prenons la scène maintenant dans cette disposition d'esprit et de cœur pour que le Seigneur touche nos cœurs et les amène à la repentance. Amen.
Seigneur, nous nous présentons devant toi pour la Sainte Cène.